13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean-Luc Roy.
Et salut Louis Amar, bonjour à tous.
À la une, la F1, Grand Prix de Singapour. Dans une heure, Lewis Hamilton en pole position. On y sera dans quelques instants. À 13h20, le Frenchies Corner. Et une question, pourquoi Esteban Ocon sera probablement sans baquet la saison prochaine? Et puis nous recevrons Philippe Bianchi qui a vu de près l'éclosion de Charles Leclerc, futur pilote Ferrari. Enfin dans Radio Paddock, le rallye de Turquie et l'IndyCar. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous.
RMC Motors avec Motorsport TV.
On n'oublie pas non plus l'événement du week-end sur RMC, le Décastar à Talence. Kevin Mayer, toujours lancé à la poursuite du record du monde de décathlon. Prochaine épreuve à 13h30, c'est le saut à la perche. Il y a également du rugby ce dimanche, c'est la suite de la quatrième journée de Top 14. Le match entre La Rochelle et Perpignan, Morgan Maurice. Salut Morgan.
Bonjour à tous, c'est La Rochelle, Perpignan, deux équipes mal en point, Louis, puisque Perpignan est dernier de ce Top 14 et les Perpignanais n'améliorent pas leur situation pour l'instant puisqu'ils sont menés 8-3 par La Rochelle. On est dans les 5 dernières minutes de cette première période.
Et tout de suite, on part à Singapour.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Adrien Tambay est avec nous. Salut Adrien.
Salut Louis, salut à tous.
De la Dream Team RMC Sport. Et lui est dans la nuit de Singapour. Bonjour Lucas Vinois.
Salut Louis, salut Jean-Luc, salut Adrien, salut à tous.
Jean-Luc, comme d'habitude, on va commencer par présenter ce tracé, ce Grand Prix. À Singapour, c'est une épreuve spéciale où les pilotes restent à l'heure européenne. Et puis surtout, c'est la course la plus éprouvante, la plus longue de la saison.
Absolument, bah, tu as donné les principales clés de ce tracé qui est atypique hein, dans tous les sens du terme, puisque tracé en ville, tu l'as dit, on peut dire que c'est un grand Monaco si on veut schématiser, parce que ça se passe en ville, parce qu'il y a des rails partout, parce que c'est très délicat, mais un Monaco qui roulerait donc de nuit, en tout cas pour le Grand Prix, avec une humidité absolument omniprésente qui demande des efforts énormes aux pilotes, avec 23 virages, donc il y a encore plus d'occasions de commettre des erreurs, et on en a vu déjà lors des essais libres et des qualifs, avec donc un engagement physique qui est peut-être plus important qu'ailleurs également. Et puis il faut de la chance, comme toujours, nous l'évoquions dans les grandes gueules tout à l'heure, parce qu'il y a souvent, pour ne pas dire toujours, un safety car. Donc tout dépend du moment auquel il sort, où il sort, si on a ravitaillé ou pas. Il y aura un ou deux arrêts au stand, on le sait, pour changer les pneumatiques. Ce sont les pneumatiques les plus tendres que Pirelli a apportées, donc beaucoup d'inconnus. Et puis on se rappelle de ce carambolage juste après le départ l'an dernier. Trois monoplaces éliminées, rien moins que les deux Ferrari plus Verstappen. Donc il faut de la chance, il en faudra beaucoup pour triompher.
Les week-ends passent, les Grands Prix se succèdent, mais lui reste, lui c'est Lewis Hamilton, Adrien, toujours en pole position et auteur à nouveau hier d'un tour fantastique en 1:36.015.
Oui, sur un circuit où il n'était pas forcément le favori, avec une Ferrari qui normalement est très performante dans les circuits urbains, et ici à Singapour, bah, il a réussi à sortir un tour d'anthologie hier, plus de 3 dixièmes d'avance sur le deuxième Max Verstappen. C'est une petite surprise aussi, lui aussi a réussi une très très belle performance, et puis voilà, 6 dixièmes sur Vettel, c'est compliqué pour l'Allemand là.
On va l'écouter, Lewis Hamilton, justement hier, au sortir de cette qualification. Il était épuisé, le Britannique, au micro de Lucas Vinois.
Je le sens physiquement. Je parle souvent des gens qui regardent, qui aiment ce sport, qui nous voient transpirer. Ils ne comprennent pas forcément et ne peuvent pas savoir à quel point la Formule 1 est difficile. Si je pratique un autre sport, je vais souffrir au début, mais en entraînant mon corps, ça va aller de mieux en mieux. Alors que si on installe un sportif de haut niveau dans nos voitures, son corps sera détruit au bout de 3 virages, parce que les charges, les forces infligées sont uniques et complètement différentes. Mon cœur est monté jusqu'à 206 pulsations pendant mon tour de qualification. Cette adrénaline, le fait de rester concentré, c'est la chose la plus difficile. Mais si vous y parvenez, c'est un sentiment magique que vous recherchez constamment par la suite.
Dans la plénitude de ses moyens, Lewis Hamilton. Lucas, hier, quand il est arrivé à ton micro après les qualifications, comment tu l'as senti, Lewis Hamilton? Est-ce que tu as senti, comme il disait, son cœur battre si vite?
Ah, il était ravi, en tout cas Lewis Hamilton, presque surpris d'avoir mis Sébastien Vettel à 6 dixièmes, puisque Mercedes n'était tout simplement pas favorite ici à Singapour, même si les flèches d'argent ont plutôt réussi par le passé. Mais c'est vrai que sa performance a été incroyable, mais surtout une image qui a été importante, c'est celle du garage Mercedes. Quand il y a la pole, d'habitude on se congratule, on applaudit. Là tout le monde est resté bouche bée après ce tour d'anthologie, ce qui montre à quel point Lewis Hamilton a estomaqué tout le monde hier.
Et oui, il a somme presque ses équipiers, c'est ça qui est terrible avec Hamilton, Jean-Luc.
Ah, il leur a mis un coup au foie, et particulièrement à Vettel, parce que je crois que Vettel n'a pas compris, lui n'a pas réussi alors qu'il a la meilleure voiture, hein. On le répète, la Ferrari actuellement c'est la meilleure voiture globalement, donc il n'a pas réussi à mettre l'ensemble du tour. Il y a une petite image, si tu veux bien, sur laquelle bien on sûr peut revenir avant qu'il réponde aux questions de Lucas. Il est resté prostré pas longtemps, une dizaine de secondes, il s'est levé dans son baquet, au moins tu vois le halo, merci beaucoup, qui sert à ça. Il a posé les deux coudes dessus, et puis il a récupéré de son effort. Je pense que, et les sportifs de haut niveau, ce que je ne suis pas, le savent, à ce moment-là, il était envahi peut-être par l'émotion, mais aussi par la décharge d'adrénaline. Il avait besoin de se rassembler. Il doit avoir la tête qui tourne même à ce moment-là.
Un tour qualif comme ça, c'est vraiment, on se met dans un état second et sur un circuit comme Singapour, de nuit, les rails, 23 virages, des vitesses quand même bien plus élevées qu'à Monaco. C'est la concentration poussée à son extrême. Et quand on arrive à sortir un tour comme ça, comme Hamilton l'a fait, ben forcément c'est une belle satisfaction.
Est-ce que tu as déjà piloté de nuit, Adri?
Oui, plusieurs fois.
Alors la question est naïve, mais qu'est-ce que ça change? Me dis pas qu'il fait noir.
Alors j'ai roulé au changement de luminosité. Et c'est là, d'accord, la tombée de la nuit que ça peut être très compliqué, parce qu'il faut justement changer sa vision, et il y a des éléments qui sont difficiles à gérer, notamment le soleil qui descend. Bah, par contre, de nuit avec ce type d'éclairage là, oui, c'est quasiment la journée.
Juste un tout petit mot humoristique, parce que on nous parle d'économie d'énergie en Formule 1, et là on éclaire le circuit avec des projecteurs qui sont chacun 4 ou 10 fois plus puissant qu'un projecteur de stade de foot. Donc bon, allez, j'étais juste.
Non, mais c'est, très bien, je préfère le dire, c'est un gag. Parce que Lucas, les chiffres sont dingues, hein.
Oui, c'est dingue. Ouais.
Les chiffres sont hallucinants. 1600 projecteurs. Il y a 110 km de câbles ici à Singapour qui sont déployés juste pour l'éclairage. Donc non, mais c'est absolument considérable. Les installations sont complètement dingues. Et pour revenir d'ailleurs sur ce que disait Adrien, les pilotes disent que c'est facile de conduire la nuit. En revanche, c'est beaucoup plus difficile à Abu Dhabi, puisque là la luminosité change. On part, il fait jour. On termine, il fait nuit. Et en effet, quand on a le soleil dans les yeux, c'est plus compliqué. Ici, la seule chose un petit peu plus difficile peut-être, c'est le choix de la visière, mais maintenant c'est quand même la 10e édition, la 11e édition même du Grand Prix de Singapour, donc les pilotes commencent à être habitués.
Un dernier mot, Jean-Luc, sur Lewis Hamilton, qui réussit à aller chercher, à aller conquérir une pole position sur un circuit qui n'est pas un circuit de moteur, donc ça n'est pas la puissance de son bloc propulseur qui fait la différence, mais son talent.
Mais tu l'as résumé là aussi, là peut-être la part du pilote, c'est pas 20%, c'est peut-être 40, peut-être 50, peut-être 51% dans le résultat, parce qu'effectivement on peut avoir une machine formidablement réglée, extrêmement efficace, bah tout revient au pilote. Là c'est même plus au centimètre maintenant, c'est probablement au millimètre que l'on pilote sur un tracé comme celui-là. Et j'y reviens, Vettel commet une petite erreur en FP2, il abîme un peu sa monoplace, ça lui pourrit sa séance d'essai libre, et quand on commence à engrainer malheureusement du mauvais côté, eh bien il va le trimballer jusqu'au Grand Prix, cette erreur. Alors qu'Hamilton, lui, il est dans... On n'attend rien de lui, on le sait. Les Mercedes sont pas bien là-dessus. Il a gagné l'an dernier en partant cinquième. Bah, tous les espoirs lui sont permis, puisque une fois sur deux, à Singapour, on triomphe en partant de la pole.
Alors justement, on va enchaîner tout de suite avec les Ferrari, puisque je vois que vous avez envie d'en parler, Jean-Luc et Adrien, de Sébastien Vettel. Adrien, encore une fois hier, on a vu, un peu comme à Monza, un Vettel déçu, désespéré presque après son échec en qualification, alors que la pole semblait promise au Ferrari.
Oui, il faisait clairement la gueule, ouais. Sébastien Vettel, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hier, Lewis Hamilton a été simplement meilleur que tous les autres, et de loin, et ça fait quelques grands prix maintenant qu'il arrive à vraiment être phénoménal. Il fait une différence par rapport à son coéquipier Valtteri Bottas, mais aussi par rapport à Vettel qui lui a tendance à accumuler les erreurs. C'est compliqué pour l'Allemand en ce moment.
On va l'écouter, Sébastien Vettel, déçu donc au micro de Lucas Vinoy.
Au niveau du résultat, c'est décevant. En deçà de nos attentes, nous aurions dû faire mieux, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur la course. Ça ne va pas être facile puisque tout le monde part avec les pneus hyper tendres. Nous avons tenté une stratégie différente en Q2. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Cela aurait pu nous aider. Nous sommes conscients que le pneu hyper tendre n'est pas le meilleur pour la course, mais c'est celui que tout le monde utilise. Après le départ, nous verrons ce que nous pouvons faire.
Sébastien Vettel, on va laisser finir parler quand même au micro de Lucas Vinoy. Rapidement, c'est la mi-temps au rugby, Morgane Maury.
Quatrième journée top 14, La Rochelle mène face à Perpignan à Marcel de Flandre, 10-3 pour les Maritimes grâce à un essai de Vincent Athès.
Merci Morgane, on te retrouve pour la seconde période. Lucas, est-ce que c'est le même Sébastien Vettel que tu as vu devant toi hier que celui que tu avais vu devant toi à Monza après la qualif? Est-ce qu'il y a des similitudes dans l'attitude de Sébastien Vettel?
Il a pris un coup de bambou ici, Sébastien Vettel. On l'a vu déjà pas très à l'aise lors de la journée des médias. C'était jeudi. On l'a questionné sur la venue de Charles Leclerc. Il était pas satisfait du tout, pas ravi. Peu de sourire. C'est quelqu'un d'assez souriant d'habitude, Sébastien Vettel, qui aime bien blaguer, que ce soit avec son coéquipier, avec son équipe ou même avec les journalistes. Là, il est assez fermé. Il est renfermé sur lui-même. Il est en train tout simplement de sentir que le titre lui échappe. Il commet des erreurs. Et je pense que son erreur, comme le disait Jean-Luc en FP2 lui a porté préjudice en qualification. Il a tapé très fort le mur, il aurait pu casser sa monoplace et peut-être qu'hier il a pris plus de marge, mais le problème c'est quand il y a 23 virages et que sur 23 virages vous prenez un peu plus de marge, et oui, peut-être que ça fait 6 dixièmes à l'arrivée.
Jean-Luc, on a l'impression qu'il y a quand même eu un point de bascule dans la saison de Sébastien Vettel. J'ai presque envie de te dire que c'est le Grand Prix d'Allemagne, mais parce que jusque là il domine cette saison.
Mais tu as parfaitement raison, mais là il ne peut que s'en vouloir. Alors lui, il a glissé ça sous le tapis bien sûr, et c'est la seule attitude qu'un sportif de haut niveau peut avoir. Quand il commet une erreur aussi énorme que celle-là, encore une fois je ne vais pas en rajouter, mais il est en tête du Grand Prix, devant son public, il tombe, trois gouttes d'eau, il sort. Alors on pourrait presque dire, et j'ai toujours beaucoup de respect pour les pilotes, mais c'est presque une faute de débutant. Un jeune pilote aurait fait ça, Lance Stroll aurait fait ça, on aurait
dit, entendu,
ouais. ou Charles Leclerc, on aurait dit, ah bah oui, il apprend. Mais ouais, là, c'est quand même un quadruple champion du monde en tête du classement général provisoire à ce moment-là, sur une Ferrari en tête de son Grand Prix qui sort. Ben oui, le tournant, pour moi, il est là. Et depuis, mentalement, il est en difficulté. On l'a vu à Monza, où il se fait devancer par son équipier Kimi Raikkonen au qualif. Il se rate, on peut le dire encore une fois, dans la deuxième chicane, lorsqu'il subit l'attaque d'Hamilton, parce que au lieu d'être obnubilé par le fait de dépasser tout de suite son équipier, qui, le sait, ne va pas l'aider, puisqu'il a appris, on le sait maintenant, Raikkonen, qu'il ne resterait pas, ouais, eh ben, il est déstabilisé. Donc c'est pour ça, j'en parlais dans les paris tout à l'heure, moi, Vettel, je le crois en grande difficulté, et il va falloir qu'il réagisse en champion, et ça va pas être facile.
Adrien, tu partages le constat?
Complètement, et pour en revenir à la faute d'Hockenheim, c'est pas les conditions étaient extrêmement difficiles pour les pilotes, ils étaient en slick, il commençait à pleuvoir assez fort, tout bon pilote peut faire cette erreur, par contre, sur ce circuit-là, à Hockenheim, à l'endroit où Sébastien Vettel a fait probablement le plus de tours de roue dans sa vie, ouais, dans le seul virage du circuit où il faut faire attention dans ces conditions-là, le seul virage où il n'y a pas de dégagement, c'est le seul virage où on peut pas prendre de risque sous la pluie dans ces conditions, même sur le sec, c'est un virage compliqué, le Sachs Corner. Et pour Sébastien Vettel, faire cette erreur-là à cet endroit-là, c'est juste pas acceptable d'un champion de sa trempe.
De ce niveau.
Lewis Hamilton en pole position, on l'a dit. Sébastien Vettel, troisième. Il nous en manque un, c'est le deuxième. Et c'est Max Verstappen. Il était heureux hier après la qualif. On l'écoute au micro de Lucas Vignoire.
Je me sentais vraiment bien, la voiture était performante. Être 3 dixièmes derrière avec les problèmes moteurs que nous connaissons encore en qualification nous rend forcément heureux. Même dans mon dernier tour, j'étais 2 dixièmes plus rapide. Je suis arrivé dans un virage et lorsque j'ai voulu réaccélérer, le moteur a coupé. J'ai dû interrompre mon tour, mais très heureux d'être deuxième.
Jean-Luc, grosse perf de Verstappen quand même. C'est un circuit sur lequel on attendait les Red Bull, mais hier il a vraiment tiré le maximum de sa monoplace.
Écoute, c'est un super pilote, on le sait depuis longtemps, hein, depuis, je le rappelais, sa première victoire aussi lorsqu'il est arrivé chez Red Bull aux commandes de cette machine instantanément. Alors bien sûr, là il a fallu qu'il mette un peu d'ordre dans ses idées, il a eu un début de saison un peu brouillon, mais le talent est là, la rapidité est là, une nouvelle fois dans le résultat, y compris en qualif, le talent du pilote s'exprime. Et puis il suffit de voir, bon, il a peut-être plus non plus, il est plus en odeur de sainteté Ricardo, puisqu'on sait qu'il s'en va chez Renault, mais il n'empêche, l'écart avec son équipier est absolument énorme. Moi je dis que Verstappen a une belle carte à jouer, on verra les circonstances de course, mais la première victoire en Grand Prix de Formule 1, ça peut être à Singapour.
Hamilton, Verstappen en première ligne, Vettel, Bottas en deuxième ligne, Raikkonen, Ricciardo cinquième et sixième. Dans un instant, le Frenchies Corner avec une belle surprise et une sale perspective. D'un côté, Charles Leclerc a signé chez Ferrari, de l'autre, Esteban Ocon n'a toujours signé nulle part. A tout de suite sur RMC.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Avec Adrien Tambay, avec Lucas Binois. Dans moins d'une heure, le départ du Grand Prix de Singapour, vous le vivrez en direct sur RMC dès 14h10. On en profite, il y a encore 3 Français sur la grille.
RMC, Motors, le French's Corner.
On en profite parce que ça pourrait bien ne pas durer. Grosjean, certes, devrait rester chez Haas la saison prochaine. Pierre Gasly, on le sait, sera chez Red Bull. Mais Esteban Ocon a de plus en plus de chances de rester piéton. Depuis quelques semaines, toutes les portes se referment devant lui. On va rentrer dans le détail de cet imbroglio qui a encore rebondi ce week-end à Singapour. On écoutera l'ensemble des acteurs. Avant tout, Jean-Luc, qui est pour toi responsable de cette situation?
La Formule 1. C'est-à-dire que la Formule 1 dans son ensemble, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur cette planète. Il faut sauver le soldat F1. J'y reviens, tu vois ce que je veux dire. Et oui, parce que là, c'est pas possible. Quand on a des jeunes pilotes de talent, alors certes, on va me dire, mais il y en a eu à toutes les époques, il y en a eu. Oui, mais là, il y en a au moins, il y en a plusieurs qui sont en danger. Le talent ne suffit plus du tout en Formule 1. C'est-à-dire que pourtant, quand tu as un accord signé avec Mercedes, qui est l'écurie qui ultra domine la Formule 1 depuis longtemps, et que même Mercedes ne parvient pas à te trouver un baquet, parce que ce contrat justement était handicap, en l'occurrence pour aller chez Renault, mais parce que aussi Ricciardo est venu, et chez McLaren, parce qu'on dit, bah non, nous on veut pas d'un prêt, on veut un pilote qui reste, et on fait monter le jeune Lando Norris, qui est plein de talent, mais là c'est une hérésie, sincèrement, si Esteban Ocon reste sur le côté de la piste en 2019, c'est un scandale absolu, c'est la Formule 1 qui est responsable dans son ensemble, il n'y a pas assez de baquets en Formule 1, je sais qu'on en parle, Toto Wolff, puisque c'est lui le patron de Mercedes, plaide pour une troisième voiture, pour ceux qui le peuvent et le veulent, il le faut absolument. Il manque 6 voitures sur une grille de départ en Formule 1 et c'est évidemment les 6 dernières, donc pour les jeunes pilotes.
Adrien, il faut mettre cette absence de baquet d'Esteban Ocon pour l'instant au débit de la Formule 1.
Bah oui, mais ça a toujours été le cas. Hein. La Formule 1 est un sport, mais c'est aussi un business et c'est aussi voilà, il faut vraiment avoir tout rassemblé au bon moment, le timing, la chance, l'opportunité pour Esteban. Malheureusement, ça lui joue des tours d'être dans le giron Mercedes à ce stade-là de sa carrière, alors que ça l'a aidé jusqu'à maintenant.
C'est un paradoxe.
Voilà, c'est un paradoxe et malheureusement, il se retrouve un peu dans une impasse. Mais allez, j'ose espérer que même si c'est pas l'année prochaine, il y aura un beau futur pour Esteban.
Et puis il reste une piste Williams, hein, qu'on évoque depuis le début avec insistance. Pourquoi ? Parce que c'est motorisé par Mercedes et on sait très bien que un rabais certainement très important de plusieurs millions de dollars sur la fourniture du moteur Mercedes à Williams équivaudrait à apporter un budget. Donc moi j'espère fortement que Toto Wolff aura l'aval aussi de son conseil d'administration pour mettre le paquet et qu'au moins il roule dans une Williams. Alors tu vas me dire oui, c'est pour faire les fonds de grille.
Mais au moins il roulera. Depuis le début de l'été, Esteban Ocon était quand même assez discret. Il n'en disait pas trop. Il disait toujours croire en son management et en ses chances d'être en Formule 1. Vous allez l'entendre au micro de Lucas Vinoy. Ce week-end, le discours a bien changé.
Déçu, je pense que c'est le mot. Après, voilà, tout ce que je peux faire, moi, c'est continuer à performer. Je pense que la place du sportif, elle est pas assez présente de nos jours et qu'il y a plus de choses extérieures qui rentrent en compte et ça me déçoit un petit peu, ouais. C'est sûr que même si l'année prochaine, j'ai une année difficile, voilà, bah, je reviendrai. Peu importe de quelle manière, mais je serai de retour. Et c'est aussi grâce au soutien de Mercedes si ça arrive.
Lucas, tu es toujours avec nous en direct de Singapour. Tu as vu Esteban Ocon depuis le début de ce week-end. On entend dans sa voix beaucoup de déception, de frustration. Est-ce qu'on les lit aussi sur son visage ?
Oui, sur son visage et sur son langage corporel. Hein. Il est complètement avachi sur sa chaise quand il répond à nos questions. Esteban Ocon, il a les épaules qui remontent, la tête rentrée dans les épaules. Là, il a compris que c'était mort, tout simplement, pour la saison prochaine. Il ne rejoindra vraisemblablement pas Williams. C'est Toto Wolff qui a vendu la mèche l'autre jour et c'est la raison pour laquelle il s'est énervé. On l'écoutera tout à l'heure. Mais en tout cas, oui, c'est des temps difficiles pour Esteban Ocon et c'est ce qu'il nous confiait. Aujourd'hui, j'ai l'impression de tout faire pour rester en Formule 1. Je fais des bons résultats, mais même faire ces bons résultats, ça ne suffira pas et forcément, c'est difficile à comprendre.
Alors justement, tu as parlé de Toto Wolff, le patron de Mercedes, qui d'ordinaire est quelqu'un de plutôt affable, de plutôt discret, mais qui là a sorti la sulfateuse. Il n'y a pas d'autre mot. Il est arrivé à Singapour. On l'a interrogé sur la situation d'Esteban Ocon, qui, on le rappelle, est un pilote de la filière Mercedes. Et voilà la réponse de Toto Wolff, assez surprenante. Écoutez-le.
Ce qui se passe cette année est juste incroyable. Il y a eu trop de politiques en coulisses, de mensonges, et les jeunes pilotes qui méritent d'être en Formule 1 n'y seront pas forcément l'année prochaine. Esteban en fait malheureusement partie. En juillet, il avait 2 contrats sur la table. La question était juste de savoir lequel il devait choisir. Et finalement, il se retrouve sans rien seulement parce que certaines personnes n'ont pas eu les couilles de respecter leurs engagements. Mais ce n'est pas un problème. Esteban est quelqu'un de fort dans sa tête. Il a eu des moments difficiles dans sa carrière. Nous allons trouver une solution.
Parole à la défense. L'homme que vise Toto Wolff, c'est le patron de Renault, Cyril Abitboul. Voici sa réponse.
Il y avait clairement des discussions, je ne l'ai jamais nié. En revanche, il a toujours été clair qu'on avait un intérêt pour un certain nombre de pilotes, qu'on travaillait sur 3 options. Et donc, moi, je ne veux pas commencer à dire « je l'ai promis », etc. Encore une fois, c'est des groupes qui comptent, c'est des équipes. Je pense que Toto doit avoir suffisamment d'expérience pour savoir que, en l'absence de contrat, les choses peuvent évoluer. Et je pense qu'il n'imaginait pas que Ricciardo pouvait être intéressé par Renault. Donc, il a peut-être péché un petit peu par... par excès de confiance sur la puissance de Mercedes.
Alors justement, Jean-Luc, là on se renvoie la patate chaude. Est-ce que c'est Mercedes qui a trop traîné, qui a eu trop confiance, comme le dit Cyril Abitbol, ou est-ce que Renault a joué une espèce de double jeu qui a plombé finalement le début de carrière d'Ocon?
Comme l'évoquait Adrien, de toute façon, quand tu es dans le giron d'une équipe comme celle-là, de Mercedes ou de Charles, on va en parler dans un instant, de Ferrari, il est évident qu'ils écrasent tellement le championnat, ils ont tellement de puissance financière, politique, etc., que ça nuit forcément si tu essaies de te placer ailleurs. Il y a eu le cas très récemment de Sainz Junior qui a été prêté donc à Renault par Red Bull, mais c'était un prêt. Donc effectivement, moi je comprends très bien Cyril Abitbol qui dit avoir quelqu'un pour une saison prêté, on va continuer à le former, puis on va nous le reprendre peut-être pour le mettre à la place de Bottas dans un an, c'est pas admissible. Et je comprends pour une fois là aussi Zach Brown qui raconte beaucoup de bêtises, moi j'y vais carrément aussi puisqu'on a personne à la langue de bois, moi non plus. On savait que c'était Lando Norris qu'on montrait depuis le début, de toute façon là c'était du bullshit comme on dit, mais bon, Esteban il a essayé, on dit nous on en veut pas aussi parce qu'il est pilote Mercedes. Tout ça c'est bien joli. La solution, elle existe, c'est que Mercedes est un team junior, un vrai team junior, dans lequel ils imposent un pilote, et dans ce cas-là, c'est Esteban Ocon qui est au premier rang, ou bien, je le redis, même si je comprends Lucas, qui a certainement d'autres infos que les miennes, et si Toto Wolff a dit que c'était plié chez Williams, c'est dramatique. Moi, je pense qu'il faut tout faire chez Mercedes pour que Esteban Ocon soit chez Williams.
Adrien, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette guéguerre de patron d'écurie, avec des mots quand même assez forts, hein?
Faut comprendre Cyril Abitbol, il le dit très bien, jusqu'au moment où le contrat n'est pas signé, c'est pas le monde des bisounours, c'est la Formule 1 et c'est pas nouveau. D'ailleurs, il a eu l'opportunité de signer Daniel Ricciardo. On peut pas lui en vouloir. On adore Esteban, et c'est un très très bon pilote, mais il y a Daniel Ricciardo qui a des victoires à son actif qui est très très bon, et pour c'était très important pour Renault d'avoir
et qui va s'inscrire sur la durée.
Voilà,
bien sûr. Et bien sûr.
Lucas, on se souvient que lorsque les premières rumeurs d'absence d'Ocon sur la grille sont sorties, d'autres pilotes s'en sont émus, notamment Hamilton, notamment Vettel. Est-ce qu'il y a encore une forme d'union sacrée des pilotes autour du sort d'Esteban Ocon, ou est-ce que finalement ce sujet est passé par perte de profit?
Oui, il est un petit peu passé ce sujet. On en a parlé au début, mais maintenant que la situation est quasiment entérinée, on en parle moins, malheureusement pour Esteban Ocon. Mais de toute façon, ça ne changerait rien, et c'est bien ça qui est triste dans cette histoire, puisque lui, il est un peu au milieu de deux mondes. C'est-à-dire qu'il est managé par Mercedes. Il était persuadé. Toto Wolff lui avait dit, tu seras à 100% sûr d'être en Formule 1 l'année prochaine. Il nous l'avait confié d'ailleurs à Budapest. Et puis finalement, tout a changé. Tout s'est retourné contre lui, et lui n'a plus de marge de manœuvre. Le problème en fait qui s'est passé, c'est que Toto Wolff, je pense, et la façon dont il est dans le paddock, a présumé un petit peu de ses forces et a pensé qu'on ne pouvait rien refuser à la grande écurie Mercedes qui domine la F1 depuis 2014 et l'avènement des turbos V6 hybrides. Et c'est ça le problème. Peut-être que Toto Wolff a été un petit peu trop confiant, et Esteban Ocon en fait les frais aujourd'hui.
Esteban Ocon qui partira 9e tout à l'heure sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour. Ça partira à 14h10, ça sera à suivre évidemment en direct sur RMC. Romain Grosjean 8e, premier français, on y reviendra, et Pierre Gasly 15e. Lui n'est pas vraiment français, mais bon, un petit peu quand même. Lui, il est monégasque, il a 20 ans et il a signé chez Ferrari. Lui, c'est Charles Leclerc, et c'est sur la piste de notre invité qu'il a roulé en kart pour la première fois. Bonjour Philippe Bianchi. Philippe Bianchi, est-ce que vous êtes là? Philippe Bianchi, notre invité.
Oui, il était là.
Est-ce que vous êtes là, Philippe? Vous nous entendez?
Oui, je suis là.
Parfait, merci. Salut, Philippe. Merci Philippe.
Bonjour,
d'être avec moi en direct dans Motor.
Première
question, Philippe. Quel a été votre sentiment mardi quand vous avez appris, d'ailleurs vous l'avez peut-être appris un petit peu avant, quand vous avez appris que Charles Leclerc avait signé chez Ferrari?
Pour moi ça reste une grande fierté, parce que la famille Leclerc et ma famille, on est liés depuis très longtemps. Son papa était mon meilleur ami. Il a démarré le kart, on les a un peu élevés ensemble avec Jules, avec Tom aussi, mon autre fils, Arthur, Lorenzo, Charles. C'était tous les week-ends, ils se tiraient des bourrasses sur le circuit à Brignoles, et que il était un peu plus jeune que Jules, mais bon, on voyait qu'ils avaient la même trajectoire qui arrivait, quoi.
Justement, je crois que c'est sur votre piste à Brignoles, Philippe, que Charles Leclerc a débuté en kart. Je crois qu'il avait 4 ans. Comment s'est passée cette rencontre? Comment il s'est retrouvé à rouler chez vous?
En fait, moi, comme je vous disais, j'étais très ami avec son père. Et en fait, il a prétexté qu'il était malade pour pas aller à l'école, parce qu'il savait que son père venait me voir. Et bon, on l'a fait, évidemment, ça n'a pas beaucoup plu à sa maman, mais on l'a fait démarrer, donc c'est moi qui l'ai fait démarrer dans un kart. Donc au début, on n'allumait pas le moteur, je le tirais avec une corde derrière un autre kart. Et puis jusqu'au moment où bon, on voit qu'il arrivait, on a vu qu'il arrivait à gérer le volant, le frein, donc on a décidé de le mettre en route et il a fait ses premiers pas, effectivement, sur le circuit de Brignoles.
Oui, bonjour Philippe, c'est Jean-Luc. Comme tu le disais, effectivement, son papa était un excellent ami à toi. Il roulait également en course. Est-ce que le fait d'avoir un papa pilote, effectivement, ça influe, et tu vois bien sûr venir ma question. Est-ce que le fait d'avoir baigné dans cette ambiance et cette atmosphère depuis tout petit, 4 ans, hein, c'est incroyable. Est-ce que ça explique l'ascension de rapide de Jules? On rappelle, il a remporté le titre GP3 et le titre F2 de suite.
Non, mais ça c'est tout à fait évident. Je veux dire, il était élevé dans une... Hervé était un passionné de sport automobile. Il baignait dans le sport automobile comme le faisait Jules. Après, c'était Hervé, son papa, c'était pas quelqu'un qui le poussait à nécessairement rouler. Et très rapidement, on s'est aperçu que pour Charles, comme ça l'était pour Jules, c'était une vocation, quoi. C'est-à-dire qu'il voulait tout le temps rouler. C'était même à des moments un peu pénibles parce que il bloquait la piste. Il y a beaucoup d'anecdotes avec Charles au début, dans ses débuts, puisque son papa voulait toujours lui mettre des moteurs plus puissants que ce qu'il fallait avoir sur le kart, ce qui n'était pas autorisé. Moi, je me battais un peu contre Hervé, parce que les gens râlaient, parce que Charles qui était tout petit, on l'appelait d'ailleurs le pince à roulette à l'époque, et il doublait tout le monde, il passait dans les virages tout en travers, et ça énervait les gens, et je disais, mais laissez-le faire, qu'est-ce que ça peut vous faire? Il n'est pas dans votre catégorie, c'est un petit, il s'amuse, voilà. Mais c'était amusant, quoi, c'est vrai.
Philippe Bianchi est l'invité de Motors en direct sur RMC. Philippe, est-ce que quand il a débuté tout de suite, vous avez senti que Charles Leclerc avait quelque chose de différent, quelque chose de plus que les autres?
Il avait déjà cette détermination et cette envie de toujours aller le plus vite qu'il pouvait et effectivement de rien lâcher, de toujours se comparer aux autres et de beaucoup travailler, parce qu'il travaillait, il roulait beaucoup. Quand je dis travailler, à ce moment-là, c'était encore que des tout petits enfants, mais il bossait beaucoup, il roulait, il essayait de s'améliorer tout le temps et on voyait que c'était une vocation, c'est sûr.
Philippe, il y avait 8 ans d'écart, bien sûr, avec Jules, qu'il considérait peut-être un peu comme son petit frère, comme tu dis, ils ont été élevés ensemble. Quel était le lien entre les deux? Quel conseil lui donnait Jules, que évidemment Charles admirait, surtout à partir du moment où il a accédé à la Formule 1?
Je sais que Jules avait des discussions privées. Il était allé le voir pas très longtemps avant qu'il ait son accident à Budapest. Partager beaucoup de choses ensemble. Alors comme Jules avait comme un emploi du temps un peu compliqué, c'était souvent par téléphone, donc j'ai pas assisté à toutes les discussions qu'ils ont pu avoir, mais c'était vraiment il avait plus un rôle de conseiller. Quand Charles avait des doutes, qu'il savait pas trop, ça le rassurait d'avoir Jules qui le repoussait dans des moments qui pouvaient être difficiles et lui redonner le moral, la force.
Et Philippe, un des talents peut-être de Charles, au-delà des qualités de pilote, on en parlait, tu as peut-être entendu dans les grandes gueules tout à l'heure, c'est cette lucidité extraordinaire à son âge. Hein. Il a à peine 20 ans, il aura 21 ans le mois prochain, mais il est très humble, il est très discret. L'arrivé chez Ferrari pour un pilote français, on imagine, pardonne-moi, monégasque, mais oui. L'absus est révélateur, on imagine la pression qu'il peut avoir. Est-ce que cette lucidité, cette intelligence, c'est pas ses plus grandes forces? C'est ce qui peut-être fera la différence?
Mais je pense que le c'est clair qu'il a la tête sur les épaules et qu'il est humble. Je pense qu'il a aussi profité d'un très bon management et que Nicolas Todd, puisqu'ils ont eu le même parcours avec Jules, Nicolas Todd travaille beaucoup cet aspect psychique. Et ça date pas, je veux dire, c'est pas aujourd'hui, il a été construit comme ça, comme Jules l'était. Je pense que Jules a la réputation d'avoir été un pilote qui était humble aussi et rapide, mais qui disait toujours, attendez, moi je fais ce que je peux, mais bon, je donne le meilleur de moi-même. Et Charles a la même marque de fabrique. Aujourd'hui, il monte dans une voiture, c'est pas... Les similitudes, c'est quand Jules faisait deuxième sur une course, même si elle était importante, bah, il faisait la tête. Bah, Charles, aujourd'hui, s'il fait deuxième, il fait la tête aussi. C'est parce que c'est des gagnes, c'est des gamins qui sont programmés pour gagner, quoi. Ouais.
Philippe, juste une dernière question. L'année prochaine, Charles Leclerc roulera dans une voiture qui pourrait faire de lui un champion du monde. Évidemment, la question est difficile, mais est-ce qu'il a l'étoffe d'un champion du monde pour vous?
Moi, je pense qu'il a le talent, on va dire, pour être champion du monde, et il le sera. Pour moi, il le sera. Maintenant, il y a l'adaptation de puisque c'est quand même une histoire très similaire, l'histoire de Jules et la sienne. Je sais que Dominicali, Stefano Dominicali, à l'époque où il était question que Jules intègre la Scuderia, disait tout le temps à Jules, on veut que tu grandisses encore un petit peu, parce que avoir une combinaison rouge, et je sais que Patrick est là et il le sait, lui, puisqu'il l'a porté, c'est quelque chose de très particulier. Alors maintenant, toute la problématique, et on se doute bien que Sébastien Vettel ne va pas lui faire de cadeau, parce que si effectivement Charles, qui est extrêmement rapide, commence à être devant lui, donc il va y avoir une pression, je pense, au sein de la Scuderia. Je pense qu'il est tout à fait capable de la gérer, et ça va dépendre effectivement des résultats qu'il va faire tout de suite en début de saison. Si effectivement il a un très bon démarrage, il va se libérer complètement et il va être redoutable, à mon avis.
Merci beaucoup Philippe Bianchi d'avoir été avec nous.
Merci infiniment.
À très vite.
Merci Philippe.
Bonne fin de journée à vous.
Au revoir.
Lucas Vinois, tu es toujours avec nous en direct de Singapour. Justement, Philippe nous parlait de la cohabitation avec Sébastien Vettel. J'ai cru comprendre que l'Allemand n'était pas ravi à l'idée de voir débarquer un jeune loup avec les dents qui rayent le fond plat.
Ah bah c'est un euphémisme. J'aime bien les dents qui rayent le fond plat. Non mais oui, bien sûr, enfin, Sébastien Vettel qui n'est pas content, puisque en plus il perd un allié de poids, presque un ami en la personne de Kimi Raikkonen, et puis en plus un ami qui lui posait absolument aucun problème, puisque Kimi Raikkonen a passé le plus clair de son temps derrière Sébastien Vettel. Donc c'est toujours bien d'avoir son coéquipier derrière soi. Et puis il faut remonter un petit peu quand même, puisque la dernière fois que Sébastien Vettel s'est retrouvé avec un petit jeune à côté de lui, il s'appelait Daniel Ricciardo, australien, chez Red Bull. Et Daniel Ricciardo avait pris le meilleur sur Sébastien Vettel, ce qui avait poussé Vettel d'ailleurs vers la sortie, une sortie qui se nomme Ferrari. Donc forcément, les petits jeunes, ça rappelle pas forcément des bons souvenirs à Sébastien Vettel.
Charles Leclerc qui s'élancera en 13e position dans une demi-heure maintenant au Grand Prix de Singapour, que vous suivrez en direct sur RMC. Le premier français, ça sera Romain Grosjean. Faut quand même qu'on en dise un mot, Jean-Luc.
Oui.
Romain Grosjean, 8e, et qui signe encore une belle qualification. Depuis le retour de la trêve estivale, il est très bon, Romain Grosjean, il n'y a pas d'autre mot, constant.
Écoute, même un tout petit peu avant, si tu me permets,
ouais,
les deux Grands Prix précédents, il a trouvé le déclic, et surtout, peut-être mis fin à ses démons. C'est qu'il travaille beaucoup mentalement aussi, parce que là, les erreurs qu'il avait commises, c'était un petit peu, effectivement, parfois, il se pressait un petit peu ou autre. Bon, il y a eu des problèmes mécaniques, hein, bien sûr, mais là, il a repris la barre, et d'ailleurs, c'est ce qui va peut-être lui permettre de sauver son baquet l'an prochain, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, donc c'est pas fait encore, mais enfin ça prend la bonne tournure. En tout cas, il fait le boulot.
Presque.
Et là il se qualifie très bien, juste derrière Perez et devant Esteban Ocon, loin devant son équipier qui d'ailleurs ne comprend pas ce qui s'est passé. Kevin Magnussen a dit là c'est évident qu'il y avait un problème de pneumatique à mon avis, hein, parce qu'une seconde d'écart ça n'arrive jamais, comme il l'a dit. Mais bon, il fait un super boulot, il peut encore postuler pour des points et je pense qu'il va le faire. Donc ça c'est le meilleur qui puisse lui arriver dans cette dernière partie du championnat.
Et on va l'écouter, Romain Grosjean, justement au micro de Lucas.
J'aurais bien voulu essayer de faire 7e, mais je me suis fait une espèce de frayeur dans mon tour dans le virage 21, où là où Seb tape Pierre le mur, j'ai fait une équerre, je sais pas comment c'est revenu. Donc pas mécontent d'arriver à faire 8e avec ça. Je pense que j'ai été chercher le maximum de la voiture, donc ça c'est cool. Les Force India sont surprenantes ici, honnêtement, je m'attendais pas à les voir aussi bien. Après, si on réfléchit, Monaco, ils étaient bien aussi. Donc les Renault derrière, ça c'est bien aussi. Donc on a une belle qualif, c'est toujours un challenge ici. On est assez transpirant, il fait chaud, c'est dur. Les murs sont très très proches. Mais on a bien travaillé, et puis surtout après Monaco, on s'était qualifié 18e et 19e. Être en Q3, juste derrière les meilleurs, c'est bien.
8e place donc pour Romain Grosjean au Grand Prix de Singapour. Merci beaucoup Lucas. On te retrouve tout à l'heure, évidemment, à 14h10 pour le départ de la course.
Tout à l'heure.
Jean-Luc Roy, Adrien Tambay, vous restez avec nous pour Radio Paddock dans un instant. C'est reparti au rugby, Morgan Morey, entre Perpignan et La Rochelle.
Là. Et Perpignan arrive à la hauteur de La Rochelle, 10 partout, alors qu'on avait viré à 10-3 en faveur de La Rochelle. Un essai signé Tom Ecochard pour les Catalans, transformé par Bousquet. C'est la 50e minute, 10 partout entre La Rochelle et Perpignan.
On garde évidemment un œil sur le Décastar et la tentative de record du monde de Kevin Mayer. Sur le décathlon, le concours de la perche a débuté et vous ne raterez rien évidemment des tentatives de Kevin Mayer. Dans un instant, le rallye de Turquie et la finale de l'IndyCar au programme de Radio Paddock. À tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
demi-heure maintenant, c'est l'un des événements de l'après-midi, le départ du Grand Prix de Singapour. Lewis Hamilton s'élancera en pole position devant Verstappen et Vettel. C'est dès 14h10 et c'est en direct sur RMC. Adrien Tambay est toujours avec nous, Jean-Luc Roy aussi. Et il n'y a pas que la F1 dans la vie.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Il y a aussi Jordan Olivier. Salut Jordan.
Salut Louis, salut à tous.
Tu nous as rejoint pour Radio Paddock. On démarre avec le WRC et avec le rallye de Turquie qui faisait son retour. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas roulé là-bas.
Et oui, après une première étape plutôt calme vendredi, ça s'est emballé hier avec l'abandon de Thierry Neuville et le leader, qui est leader du championnat. Abandon également pour le français Sébastien Ogier. Et du coup, c'est Tanak, le pilote estonien, qui en a profité. Il s'est imposé il y a quelques minutes en Turquie et il a chipé la deuxième place à Ogier.
Ah, c'est un vrai tournant du championnat parce qu'effectivement Tanak, dont on pensait un petit peu il y a encore trois rallyes hein, qu'il était bon dans la deuxième catégorie, même s'il était en tête et qu'il était performant, ben là il vient de démontrer en se remettant dans le coup, puis surtout en profitant de l'erreur, il faut bien le dire, des deux leaders. Neuville fait une erreur et malheureusement pour lui, peu de temps après, Ogier fait quasiment la même. Enfin, il arrache une roue et bah écoute, c'est super, il fait un parcours sans faute. Ça veut dire que maintenant c'est une bagarre à trois, donc rien n'est joué. Et c'est vrai que la dynamique, elle est quand même là aussi plutôt en faveur de Tanak. Hein. Bon, Neuville reste devant, mais c'est chaud.
Adrien, Ogier a laissé passer une belle occasion quand même sur ce rallye de Turquie. C'est un abandon qui pourrait coûter très cher.
Oui, c'est compliqué. Et puis on a un Thierry Neuville qui fait peu d'erreurs cette année, et là il en faisait une, donc c'était l'occasion de recoller au championnat. Donc une occasion manquée pour Seb, mais bon, la saison n'est pas finie.
Jean-Luc, on avait évoqué plusieurs fois dans Radio Paddock ces derniers temps la situation contractuelle de Sébastien Ogier pour les saisons prochaines. Où est-ce qu'on en est?
Eh bien, c'est une très bonne question. Donc, c'est-à-dire que Citroën ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de l'attirer. Pour ce qui serait, je dis au conditionnel, probablement sa dernière saison, il l'a dit. Hein.
D'accord.
Il a dit, Sébastien, qu'a priori, il n'irait pas au-delà d'une saison. Maintenant, je pense que, évidemment, si Citroën le fait venir, ce serait pour deux. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Ou une saison avec une option. Évidemment, on essaie de le garder du côté de chez M Sport, évidemment, Ford, puisque c'est là qu'il est le mieux. Je le vois évidemment pas aller ailleurs. D'ailleurs, chez Hyundai, on a reconduit Neuville, etc. Donc, tout va bien. De ce côté-là, ça ne bougera pas. Chez Toyota, donc, en fait, c'est ou Ford, ou Citroën, ou la retraite, parce qu'il l'a évoqué aussi. Je pense qu'il a encore envie, et puis le fait de remporter peut-être un titre de champion du monde, pour une troisième marque automobile, après l'avoir fait pour Volkswagen et Ford, ben je pense que ça peut motiver un champion du calibre d'Ogier.
Et il va rouler en DTM à Spielberg pour Mercedes.
Ogier.
Sébastien Ogier, il va faire une course en DTM, donc il adore le circuit, il adore les autres catégories en sport auto.
C'est dans le but de s'y lancer ou c'est un ballon d'essai?
Ben non, c'est une opportunité qu'il a saisie, c'est un peu de com aussi, je pense, et c'est la dernière année de Mercedes en DTM, mais Seb a fait plusieurs courses. Il avait fait une course de F4 à l'époque avec les jeunes. Et il est très bon sur un circuit aussi.
Mais il a roulé avec une Porsche à Monaco, je le rappelle aussi. Il était très efficace, excellent.
Toi, t'as roulé en DTM, Adrien. Est-ce que c'est fréquent de voir des rallymen venir sur circuit?
Non, pas du tout. Et puis on avait vu un Sébastien Loeb qui avait essayé qui s'était mis à faire des essais en Formule 1 avec Red Bull à un moment donné.
Ah, la rumeur Loeb en F1 avec ça nous avait
avec Toro Rosso. Il n'a pas eu sa super licence à l'époque.
En tout cas, Ogier adore le circuit et c'est peut-être une opportunité pour le futur pour lui.
On continue Radio Paddock Jordan avec la finale de l'IndyCar aujourd'hui. Ça se passe à Sonoma.
Oui, c'est Hunter Ray, l'américain qui partira en pole position du Grand Prix de Sonoma en Californie. C'est la 7e pole position de sa carrière, mais seulement la première depuis 4 ans. Il devance le Néo-Zélandais Scott Dixon et son compatriote Joseph Newgarden. Du côté des Français, Simon Pagenaud s'élancera depuis la 8e position. On le rappelle, un 0 victoire pour le poids de vin cette saison. L'autre Français, Sébastien Bourdais, lui, s'élancera depuis la 11e place.
Jean-Luc.
Ça va être difficile pour les Français, c'est évident, mais là il y a des gros bras devant hein, là entre Ryan Hunter-Reay qui a été champion, bien sûr faut-il le rappeler, Scott Dixon, Newgarden, il y a eu une belle bagarre en tout cas, et puis Alexander Rossi qui est pas très loin, il est 6e hein, sur la grille également. Alexander Rossi, il est encore dans le coup potentiellement, puisqu'on va doubler les points pour cette dernière manche du championnat. Bah, c'est à suivre de très près. On a deux Français sur la grille là aussi qui peuvent faire quelque chose éventuellement, parce que c'est vrai que ça a pas trop souri à Simon Pagenaud dans la première partie de la saison. Il s'est bien repris avec sa Penske dans la deuxième. Quant à Seb Bourdais, avec, faut le rappeler toujours, sa petite équipe, c'est la magie de l'IndyCar, où là, même si, comme le matériel est à peu près égal, en tout cas, au niveau du châssis, c'est Dallara pour tout le monde. Il y a que deux types de moteurs, hein, Chevrolet et Honda. Donc, on voit des grilles très serrées. D'ailleurs, ils sont 6 en 3 dixièmes, c'est te dire.
Adrien, finalement, la meilleure nouvelle pour l'IndyCar, c'est l'arrivée de Fernando Alonso? la saison prochaine.
Ouais, enfin, on va voir si ça se confirme.
Oh, c'est quand même très bien
parti. C'est bien parti, mais apparemment, il y a des.
Il y a juste la petite histoire de moteur, ouais, parce que Honda, et on s'en doutait un peu, il avait tellement humilié, entre guillemets, Honda. Et puis, il roule pour Toyota en WEC, il faut le rappeler. Donc, du côté d'Honda, alors, officiellement, c'est HPD, Honda North America, qui a dit non, on ne sortira pas, puisque on est sur un accord potentiel avec Andretti. C'est l'écurie qu'il avait fait rouler à Indianapolis l'an dernier. Donc, et ce sera pas Andretti Honda, quoi qu'il arrive. D'accord. Alors, on parle maintenant d'une autre équipe et du moteur Chevrolet, évidemment.
Adrien, pour terminer, quand même, si jamais ça devait advenir, évidemment, Fernando Alonso mettrait un coup de projecteur fantastique sur cette discipline.
Ouais, c'est génial. Enfin, en tout cas, un coup de projecteur pour nous, Européens, qui
regardons pas
beaucoup cette discipline qui est fantastique. Hein. C'est des vraies courses avec des vraies voitures et les pilotes se battent vraiment à armes quasi égales. C'est une discipline quasi monotype, comme le disait Jean-Luc. Juste les moteurs qui diffèrent. Et si on avait ça en Formule 1, et ben, on aurait un vainqueur différent à chaque Grand Prix.
Et juste un mot pour dire que Mario Andretti, champion du monde de Formule 1 1978, et c'est Michael qui dirige l'équipe qui porte son nom, a dit si jamais effectivement Fernando Alonso vient, le double champion du monde en IndyCar, ce sera le même coup de tonnerre que Nigel Mansell quand il est arrivé effectivement en IndyCar juste après son titre de champion du monde. C'était à l'orée de la saison 93, il avait gagné la première course dans les rues de Surfers Paradise avec sa nouvelle équipe Newman-Haas.
Voilà. Jordan, on termine Radio Paddock avec un rendez-vous la semaine prochaine, les Charades Heroes.
Et oui, c'est le week-end prochain, les 22 et 23 septembre, le circuit Charades, qui est un circuit mythique, hein, qui a accueilli 4 Grands Prix de France entre 65 et 72. Il fête cette année les 60 ans avec la présence de pilotes de légende, hein, Jackie Stewart, Jacques Lafitte et Henri Pescarolo, pour ne citer que.
Et Jean-Luc Roy.
Et Jean-Luc Roy, qui sera en direct la semaine prochaine pour nous faire vivre cet événement.
Surtout Giacomo Agostini, Phil Reed, il y aura du très très lourd avec des machines formidables. Il y a également la saga Ligier, il y aura toutes les machines Ligier. Henri Pescarolo pilotera une Matra également. Ça va être un moment d'émotion formidable et ça tombe bien, effectivement, j'y serai. Et on aura tous ces champions au micro dans Motors avec nous.
On va avoir un Motors magnifique. En plus, il n'y a pas de Grand Prix de Formule 1 la semaine prochaine, mais il y a quand même événement dans Motors avec les Charades Heroes et avec toi, Jean-Luc Roy.
Et c'est organisé par Claude Michi.
Tiens, ça faisait longtemps que vous n'avez pas parlé dans Motors. Salut Claude Michi. 13h53, dans quasiment 20 minutes, le départ du Grand Prix de Singapour, 14h10, en direct sur RMC. Merci Adrien Tambay, on te retrouve tout à l'heure. Merci Jean-Luc Roy, on te retrouve tout à l'heure. Vous serez rejoint évidemment par Lucas Vinois. Merci Jordan Olivier.